Pierre Rabhi défend un mode de société plus respectueux des hommes et de la terre. Ce paysan philosophe né en Algérie, installé en Ardèche depuis 1960, s'est fait connaître au travers de nombreuses initiatives, et notamment l'association Terre et Humanisme ou le mouvement Colibri. Nous avons eu le plaisir et l'honneur de le rencontrer au Press Club de Monaco pour une conférence de presse.
Le Press Club est toujours très friand de ces rencontres assez exceptionnelles. Aujourd'hui, donc, avec Pierre Rabhi, que vous connaissez tous, c'est un monsieur qui est paysan, essayiste, qui a vendu des millions d'ouvrages, qui vit en Ardèche, enfin, en tout cas quand il n'est pas en conférence ici et là. Et quand on pense à Pierre Rabhi, immédiatement, on pense à Colibri. Est-ce que vous pouvez nous raconter cette histoire de Colibri et qu'est-ce que vous en avez fait au travers de ce mouvement qui porte le même nom ?
Merci de votre accueil. Et je suis très heureux d'être parmi vous. Je suis très reconnaissant à tous ceux qui m'ont pris au sérieux et en quelque sorte organisé cette rencontre et c'est la conférence d'hier, enfin toutes ces choses. Il faut savoir que je suis maintenant pris dans une démarche plutôt publique que je n'avais pas prévue dans mon plan d'existence. Mon plan d'existence m'a amené du Sahara où je suis né, vers Oran où j'ai vécu quelques années. Ensuite, je suis allé à Paris et j'ai travaillé à Paris pendant quelques temps. N'ayant pas de compétences particulières, je suis devenu ce qu'on appelle un OS, ouvrier spécialisé dans une entreprise de la région parisienne. Mais ce qui m'a toujours, préoccupé, et ça a été constamment une observation constante sur qu'est-ce que l'humanité, le pourquoi de l'humanité, est-ce que l'humanité a un sens ou pas. J'ai fréquenté beaucoup les philosophes pour essayer d'avoir des réponses concernant notre sort finalement, parce que quand je me suis retrouvé en région parisienne, j'avais l'impression qu'on passait un contrat à vie en disant je donne ma vie, vous me donnez un salaire et puis voilà. Et puis après, tout l'itinéraire, pour moi, c'est 11 mois de coma et 1 mois de réanimation. C'est-à-dire qu'en fait, pendant que la nature est belle, on n'est pas là pour l'observer parce qu'on travaille au produit national brut. Voilà. Donc moi, j'ai rompu avec mon épouse, on a eu les mêmes passions, les mêmes idées, c'est-à-dire dire est-ce que nous étions jeunes mariés, et est-ce que nous faisons de notre vie, un plan d'existence qui est tout fait et puis on n'a qu'à suivre le mouvement, ou est-ce qu'il y a quelque chose d'autre à faire qui relèverait de la désaliénation. Alors ce que je vous dis, je ne suis pas en train de prêcher, vous n'êtes pas obligé d'accepter ce que je dis. Hein, c'est simplement, je suis en situation de témoignage. Je ne suis pas un professeur, je suis en situation simplement de témoignage pour vous dire voilà comment, quelles sont les décisions ou les orientations qu'on a pu prendre pour essayer, tenter de donner sens à la vie. Est-ce que la vie a-t-elle un sens? Je n'en sais rien. En tout cas, nous sommes vivants. Alors il faut bien que nous vivions. On a organisé la société comme on a cru que c'était la meilleure façon de l'organiser. Et puis aujourd'hui, on s'aperçoit que même la prospérité ne donne pas de joie. Et c'est-à-dire qu'on est dans l'abondance, la surabondance, mais on consomme des anxiolytiques, on consomme. Donc ça veut dire est-ce que notre sort, nous en tant qu'êtres humains, nous sommes ajustés à la réalité qui est celle de la vie, celle de la nature, ou est-ce que nous sommes marginaux par rapport à cette réalité? Et c'est pour ça que le confinement urbain, si vous voulez, fait que les gens sont hors sol. Et pendant ce temps-là, les couchers de soleil magnifiques sont là, se lèvent, et toute la beauté de la vie est confisquée, disons, à cette humanité confinée.
Alors, est-ce que vous pouvez nous raconter cette jolie histoire de...
Alors, j'arrive à ça, mais le préambule était important. Parce que si je viens directement à vous raconter l'histoire du colibri, ça occulte, si vous voulez, le préambule qui est indispensable pour que les gens comprennent que que la démarche a une, il y a une réflexion sur le monde, sur la démarche. Alors, si on en vient au colibri, c'est une légende amérindienne qui dit qu'un jour, il y a eu un grand incendie de forêt. Tous les animaux étaient atterrés, regardaient impuissants le spectacle de cet incendie. Mais par contre, le colibri, lui, c'est un tout petit oiseau qui est assez étrange. Il peut être immobile dans l'air, il peut reculer, etc. Bon. Et ce petit oiseau, tout insignifiant, eh bien, il va chercher quelques gouttes d'eau dans la rivière et vient les jeter sur l'incendie, sur le brasier. Et le tatou qui l'observe depuis un moment finit par lui dire « Colibri, tu penses quand même pas que c'est avec ces quelques gouttes d'eau que tu vas éteindre le feu ?» Et le colibri lui dit « Je le sais, mais je fais ma part. » Voilà. Et moi, ça a fait tilt, si vous voulez, aujourd'hui, faire sa part. Et parce que se lamenter sur le monde qui ne va pas, les politiques, c'est pas ça qui va changer beaucoup de choses. Mais si nous voulons que le monde change, l'idée ou la philosophie de ce colibri qui semble anodine, c'est de dire le monde, il sera ce que nous voudrons. Et si nous voulons qu'il soit indifférent, c'est à nous à travailler là où nous sommes, à travailler à ce changement. Voilà.
Vous avez été à ce point inspiré par cette histoire que vous en avez créé un mouvement, le mouvement Colibri.
Oui.
Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ?
Alors, le mouvement Colibri est devenu, je ne pensais pas qu'il allait prendre avec un ami et collaborateur qui était Cyril Dion. Nous avons essayé de faire connaître cette légende et amener les gens un peu à réfléchir sur cette légende. Mais je ne pensais absolument pas que ça allait prendre une certaine ampleur. Parce qu'elle résonne juste. C'est pour ça que les choses, quand elles se développent, c'est qu'elles résonnent juste chez les gens, pour le meilleur ou le pire d'ailleurs. Même le mal se développe aussi par les gens. Et donc voilà, à partir de là, il y a eu ce mouvement qui s'est développé et qui continue à se développer.
Alors vous venez de publier un ouvrage sur l'eau dans le cadre de carnets d'alerte que vous publiez régulièrement. Il y en a eu sur les semences, il y en a eu sur la faim. Ce livre sur l'eau, de quoi il s'agit exactement ?
Alors les carnets d'alerte sont des carnets que nous réalisons avec une amie qui a travaillé à TF1 pendant une dizaine d'années.
Juliette Duquesne.
Et donc nous avons pris par thématique, parce que pour dire... comme elle est bien plus capable que moi de faire les recherches, etc. Parce que c'est son métier, elle sait aller chercher les informations. On a dit, puisqu'il faudrait peut-être prendre par thème, et ne pas noyer les choses. Donc on s'est lancé à créer ces carnets d'alerte avec un éditeur qui a été très content de nous accueillir. Et c'est destiné à synthétiser la problématique de façon à ce que les gens comprennent bien la problématique, qui serait noyée dans des informations excessives et pas repérables. Et donc, ces carnets d'alerte, on a lancé l'idée de sensibiliser l'opinion à des problématiques d'une très très grande importance pour le monde. Et c'est pour ça que vous voyez la faim dans le monde, c'est extrêmement grave et important. Vous avez le problème des semences. Là, vous savez que depuis 10 à 12 000 ans, depuis que l'homme est devenu un agriculteur, c'est-à-dire qu'il est sorti du stade de cueilleur, chasseur, pêcheur pour devenir cultivateur. D'ailleurs, c'est la culture, c'est ce qu'on appelle la culture, est reliée à cette culture agraire, disons. Les semences ont été, collectées depuis 10-12 000 ans. Et chaque fois, le potentiel de survie de l'humanité par la semence ne cessait d'augmenter. Et quand vous avez de la semence, vous avez de la vie. Voilà. Donc ça a augmenté, augmenté. Malheureusement, depuis à peu près un siècle, il y a une dégringolade et une perte. Et aujourd'hui, on évalue à peu près à 75% la perte de ce merveilleux trésor vital, bien, bien plus important que l'or ou le diamant. Et ce trésor vital, il est en perte de vitesse, etc. Il m'avait carrément, à un certain moment, je crois qu'il peut complètement disparaître au profit des OGM, enfin toutes ces chimères stupides qui n'ont pas de raison d'être. La fin dans le monde, on sait très bien que ce sont des mécanismes internationaux, parce que la planète peut nourrir énormément de monde. Je ne suis pas non plus pour la prolifération humaine indéfinie, mais la planète a assez de richesses pour nourrir tout le monde. Alors pourquoi est-ce que on a des populations entières affamées? C'est pas par manque de... C'est parce que l'organisation planétaire, l'organisation humaine n'est pas faite, n'a pas le souci de prendre en compte chaque être humain pour lui assurer sa nourriture. Pire, des continents comme l'Afrique qui sont hyper riches en tout, ben c'est là que sévit la famine. Donc il y a quelque chose d'anormal. Il faut savoir aussi que l'Europe, sans la colonisation, l'Europe n'a pas tellement de richesses. Il n'y a même pas de pétrole, il n'y a rien. Donc c'est par migration des Européens vers différents continents qui a eu la survie. Donc aujourd'hui, voilà, en ce qui concerne les semences, c'est une perte considérable. L'excès de la finance, ça c'est l'autre carnet, j'ai appelé ça l'excès de la finance ou la prédation légalisée. C'est-à-dire qu'il y a en fait une forme, la finance, l'argent que je considère comme comme quelque chose de très intéressant dans ce qu'on appelle le troc, l'organisation du troc. Avant, on amenait un sac de riz pour obtenir, ou je ne sais pas quoi, n'importe quoi, pour obtenir des... L'argent, c'est très pratique, il faut reconnaître. Mais le problème, c'est qu'il permet de thésauriser, et il légalise en quelque sorte la prédation. Pour moi, c'est ça. Donc on prend le bien commun, qui est celui de l'humanité, qui devrait être considéré comme celui de l'humanité, et sous prétexte qu'on a de l'argent, on peut rentrer dans cette prédation. Donc, on n'est pas d'accord avec ça, et il faudrait que le bien qui est le bien de l'humanité soit considéré comme le bien de l'humanité, et non pas une planète au pillage, une planète dans laquelle une minorité s'approprie la planète tout entière. Si on continue dans cette absurdité, on sera tous des locataires d'un lobby de milliardaires qui nous diront vous êtes chez nous, voilà. Et c'est pas légal, moralement pas légal. Voilà. Et l'eau alors qui vient de sortir, l'eau est une catastrophe parce que elle est soit excessive, soit rare. Et j'ai travaillé dans les zones sahéliennes où les populations entières, les pluies sont rares. Ils ensemencent, mais ça ne pousse pas parce que l'eau, les pluies sont insuffisantes, etc. Et puis, nous, il faut reconnaître qu'on est même totalement inconscient. Moi qui suis des pays de la rareté de l'eau, on n'est même pas conscient qu'on fait ses besoins et on évacue 10 litres d'eau, je ne sais pas combien. Vous rendez après l'avoir purifiée d'ailleurs. On purifie l'eau et ensuite on lui fait véhiculer nos excréments. C'est quelque chose qui, dans mon imaginaire, est très, très difficile à admettre, vous voyez. Et puis, l'eau est polluée de plus en plus, voilà. Et c'est pour ça que ces carnets sont destinés à dire « réveillons-nous ». Il y a peut-être à repenser les biens communs de façon à ce que la pérennité humaine puisse se maintenir, qu'on puisse l'assurer. Voilà, donc et les prochains carnets, on est encore dans d'autres imaginations et dans d'autres... Alors c'est reconnu que ce sont des investigations qui sont reconnues comme étant de bonnes investigations.
Alors, riche de toutes ces réflexions, vous avez un projet notamment en Mauritanie au travers du fonds Pierre Rabhi. Est-ce que vous pouvez nous en dire davantage?
Alors là, je suis obligé de dire un préalable, c'est que j'ai beaucoup travaillé sur les zones... les zones arides et semi-arides. J'ai, en 81, c'était la première fois où je me suis engagé dans le Sahel, dans les zones où les gens, des populations meurent de faim, littéralement. C'est-à-dire que c'est des zones de famine, littéralement de famine. Et les paysans été engagés dans une agriculture où on leur faisait acheter des semences sélectionnées, des engrais chimiques, des pesticides, etc. Ce qui n'était pas du tout au niveau de leurs ressources. Donc ces paysans qui répondaient à leurs nécessités quotidiennes par eux-mêmes pour se nourrir, ont été incités à produire pour exporter. Et on les a fait rentrer comme ça dans le système mondial. Et à partir du moment où ils se sont mis à exporter coton, cacao, café, etc., etc., eh bien, ils se sont appauvris, et à un moment, ils n'arrivaient plus à répondre à leurs besoins alimentaires, comme ils l'ont fait depuis des siècles, sinon ils ne seraient même pas vivants. Et on les a mondialisés, en quelque sorte, on les a fait rentrer dans la complexité du système mondial. Et du coup, ils sont perdants. Ils sont perdants parce qu'ils sont pauvres, parce que... Alors, le temps qu'ils passent à cultiver pour l'exportation, c'est le temps qu'ils ne passent plus à cultiver pour se nourrir. Et je dois dire que dans ces zones-là où j'ai beaucoup travaillé, je rends hommage aux femmes, parce que les femmes ont une vaillance absolument exceptionnelle. C'est elles, en fait, qui sont devenues le soutien de la survie, en travaillant énormément. Alors, on a proposé l'agroécologie comme solution. Vous n'achetez plus d'engrais, vous ne revenez pas avec des semences sélectionnées, etc. Et vous allez retrouver votre capacité à vous nourrir, mais même en améliorant vos sols. Parce que les techniques qu'on propose, c'est des techniques qui sont fondées sur le compostage des matières organiques, c'est-à-dire qu'on refait comme la nature a toujours fait. Si vous allez, la nature, elle a toujours fait pousser ses plantes, on n'était pas là pour arroser ou pour fertiliser. Donc on est dans la logique de la vie où tout ce qui, selon la formule, rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme, c'est la logique à laquelle il faut revenir. Sinon, on sort de cette logique, on sort de la dynamique de la vie elle-même, telle qu'elle a été faite bien avant nous, depuis des milliards d'années, pour rentrer dans une logique artificialisée, et qui finalement consiste à dire, nous faisons des engrais, vous allez acheter des engrais, et l'enrichissement de lobbies internationaux. Voilà. Donc nous, on les libère de ça par des techniques qui sont le compostage, les matières organiques sont rassemblées, transformées, fermentées, et ça donne quoi? Ça donne une sorte d'humus. Et l'humus, c'est le fondement de la vie, c'est-à-dire l'humus, humanité, humilité, c'est les mêmes étymologies. Et l'humus, c'est toujours fait tout seul dans les forêts, personne n'était là. Et ces techniques agroécologiques, lutter contre l'érosion des sols, reboiser, toututes ces techniques-là permettent finalement aux paysans de survivre sans aucune dépense. Et on l'a fait, et on l'a expérimenté très concrètement. Ce ne sont pas des bavardages comme ça, on l'a vu sur le terrain. J'ai d'ailleurs rédigé un ouvrage pour expliquer ces questions-là, que j'ai appelé l'offrande au crépuscule, parce que je voulais poétiser les choses dédiées aux femmes. Il a été présenté au ministère de l'Agriculture français, qui l'a primé. C'est-à-dire qu'on a donné aussi toute une partie qui est la technique. C'est évidemment la réflexion générale sur la vie, etc., mais c'est aussi les techniques précises, comment vous faites pour obtenir, à partir du fumier, à partir des pailles, à partir des déchets organiques, vous obtenez un humus fertilisant. Et ce fertilisant a une capacité de rétention d'eau formidable. C'est-à-dire que vous prenez un kilo de ce fertilisant et vous mettez un goutte à goutte, et il absorbe, jusqu'à 5, 6, 7 fois son poids, c'est-à-dire qu'il retient l'eau dans les zones où l'eau se perd, mais il ravage les sols, parce que l'eau qui tombe violemment, elle emporte la terre. Donc ce fertilisant, on l'a expliqué dans l'offrande au crépuscule, qui a été primée, et donc voilà, ce sont des techniques réellement efficaces.
Ce projet est mis en place en Mauritanie uniquement?
Alors nous avons un plan maintenant avec un ami avec lequel on avait créé Gorogorom. C'est-à-dire qu'au nord du Burkina Faso, on avait créé une structure de formation des paysans à l'agriculture écologique. Voilà. Et là, bon, il s'est lancé sur la Mauritanie, un village mauritanien, et donc nous sommes nous sommes en coopération pour... moi, c'est mon rêve avant de quitter ce monde, c'est d'avoir un village à écologie intégrale. C'est-à-dire un village où les enfants seraient formés à l'écologie, les femmes seraient formées à l'écologie, tout le monde serait formé à l'écologie. On travaillerait les terres avec les techniques qu'on a mis au point pour que les gens puissent se nourrir sans pour se délier. La lutte et le village entier, en quelque sorte, serait mobilisé comme prototype exemplaire d'une mobilisation populaire en faveur de l'agroécologie, de façon à faire des villages exemplaires. Et nous espérons que ces villages, une fois réalisés, pourront inspirer d'autres personnes. Et donc, c'est le projet mauritanien sur lequel nous sommes aujourd'hui.
Qui finance ce projet et combien ça coûte ?
Ben, disons, le projet... vous savez, il y a le fonds de dotation Pierre-Rabhi, donc on demande aux gens de nous aider à alimenter ce fonds de dotation. Et nous voulions faire une fondation, mais ça ne marchait pas, je ne sais pas pour quelle raison, je pourrais pas vous dire. Donc on a créé ce fonds de dotation qui est destiné à accueillir la générosité des gens qui nous donnent les sous pour que nous puissions agir nous-mêmes. Nous donnons notre temps, nous donnons notre savoir, nous donnons tout, mais nous ne sommes pas riches et nous constituons donc ce fonds de dotation qui permet à toutes les personnes qui sont convaincues de notre travail de nous aider financièrement. On constitue ce fonds et ce fonds est destiné à soutenir et appuyer les initiatives qui nous paraissent aller dans le sens où nous voulons aller nous-mêmes. Puis ça nous donne la liberté de créer, justement des prototypes, et voilà, il sert à ça.
Vous dites-nous quels sont les experts qui travaillent avec vous, êtes-vous nombreux, et dans quel domaine spécifique ?
Ah ben, c'est essentiellement des gens qui sont dans l'agriculture écologique. Parce qu'au préalable, nous avons aujourd'hui une structure qui s'appelle Terre et Humanisme, et cette structure est destinée justement à former au nord comme au sud les gens à l'agriculture écologique. Et cette structure, elle est aussi financée par la générosité des gens, et ça permet d'être dans une pépinière à partir de laquelle on crée des compétences, et ce sont ces compétences qui vont aller aider. Voilà. Parce qu'il faut créer la compétence, on n'est pas agroécologiste comme ça. C'est un apprentissage et c'est une éducation particulière.
On parle d'écologie depuis le début de cette discussion. Vous avez été vous-même en 2002 candidat à l'élection présidentielle. On voit qu'il y a un lien évidemment très fort entre l'écologie et la politique, puisque le mouvement écologique est un mouvement politique. Qu'est-ce que vous pensez du fait de faire de l'écologie un mouvement politique? Est-ce que ce n'est pas autre chose, finalement, l'écologie?
L'écologie, ça devrait être une conscience, pas un parti. J'ai mon ami Hulot, on a fait un bouquin ensemble, etc. Chacun est dépendant. Vous, moi, nous tous sommes dépendants de la nature. Donc l'écologie, ça doit être une conscience. Si la nature meurt, nous mourrons. Voilà. Et donc c'est pour ça que c'est pas dire « Ah oui, mais il faut quand même mettre l'écologie mais comme un truc subsidiaire. » Mais l'écologie, c'est le fondement de la vie. Sans la vie, sans la nature, nous ne sommes absolument pas capables de vivre. Donc c'est un problème numéro un. Et si nous détruisons la nature, nous détruisons. Je ne me fais pas de soucis pour la nature parce qu'elle-même, la planète, vous savez, elle se régénère, elle a vu d'autres. Et nous sommes là. Si on prend le ratio sur 24 heures, nous sommes là depuis une minute et demie à deux minutes. Donc la planète n'a pas eu besoin de nous. Et elle risque d'être soulagée si nous disparaissons. Donc à nous de voir. On ne détruira pas la Terre. C'est des telles puissances. Moi, je suis né dans un désert. Je voyais le désert. Il a suffi qu'il y ait une pluie exceptionnelle, le désert a reverdi. Et c'est magique parce que la plante pousse. Et comme si elle était consciente qu'elle était dans un milieu éphémère. Donc elle pousse et elle va très 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 vite à la graine. Toutes affaires s'étendent, on pourrait dire. elle va d'abord à la graine. Pourquoi la graine? Parce que la graine, c'est celle qui assure la continuité. Une fois que vous avez la graine, ça y est, vous pouvez continuer. Ce qui a un rapport avec ce que je vous disais tout à l'heure par rapport aux semences qui aujourd'hui sont en train de disparaître parce qu'il y a des fripouilles qui intègrent, qui se créent des espaces de profit avec des chimères, des OGM et compagnie. C'est dangereux tout ça. La graine, elle a des siècles d'expérience et on a largement ce qu'il faut. Malheureusement, on l'a amputé de 75%. Donc c'est pour ça que toutes ces choses-là, malheureusement ignorées, ben on a essayé, avec les carnets d'alerte, de synthétiser, d'essayer d'être aussi pédagogue que possible, de façon à ce que les gens puissent comprendre quels sont les vrais problèmes aujourd'hui.
Qu'est-ce que vous pensez de ce que font les décideurs politiques aujourd'hui, notamment en France, de l'écologie ? Comment vous voyez la politique écologique, par exemple, d'un Emmanuel Macron ?
Non, on revient à la même question. C'est pas une question politique, l'écologie, c'est une question de conscience.
Et ça demande des décisions importantes.
Il y a une journaliste comme vous qui est venue me voir, une Américaine, qui est venue me voir un jour, parce qu'elle faisait une enquête sur l'eau. Alors, je lui dis, madame, vous êtes de l'eau, vous faites une enquête sur vous-même. Nous sommes de l'eau. Il n'y a pas l'eau et nous. Il n'y a pas l'eau et moi. Je suis de l'eau. Je suis constitué de 65, je ne sais plus combien, d'eau. Donc, arrêtons de, par le mental, de cliver. Nous sommes de l'eau. Et si nous polluons l'eau, nous nous polluons. Comme la pollution de notre nourriture, si la nourriture est polluée, on dit aujourd'hui la nourriture est tellement polluée que il vaut mieux se souhaiter bonne chance que bon appétit. Parce que en fait, on pollue notre propre corps avec de la matière polluée. Pourquoi elle est polluée? Parce qu'elle pousse dans des sols qu'on a pollués. Quand vous mettez des substances chimiques dans le sol, eh bien, il ne faut pas vous étonner de les voir dans votre corps. Et après, on dit, le cancer, il y a beaucoup de cancer. Mais c'est tout à fait normal, puisque notre corps ne reçoit pas la nourriture saine et dynamique qui est capable de l'entretenir en santé. Donc, une fois, si on n'a pas soigné la terre, la terre mère, la terre qui nous nourrit, si elle, elle-même n'est pas soignée, elle fait pousser des plantes carencées. Et on peut prendre l'élément scientifique, c'est-à-dire que la plante est carencée, parce que quand on met des engrais chimiques, ces engrais chimiques sont solubles. Et la plante va les absorber malgré elle. Et quand elle a absorbé ces substances, elle ne peut plus absorber les oligo-éléments et toutes les substances subtiles que la plante sauvage prend elle-même. Elle fait son propre menu et c'est comme ça qu'elle grandit. Donc on lui met des engrais qui sont des engrais solubles, chimiques. Elle absorbe ces engrais chimiques, elle pousse avec ça, mais malheureusement, n'ayant pas le panel de substances qui lui est nécessaire pour être une plante équilibrée, elle est une plante déséquilibrée. Alors elle est malade. On va chercher les insectes attaquent et les insectes attaquent, les maladies s'installent. On va chercher des pesticides et on aggrave encore plus la situation.
À l'heure où on parle, où les OGM sont décriés, où le glyphosate est décrié, on voit tout de même qu'il y a des décisions qui doivent être prises ou qui ne doivent pas être prises, je ne sais pas. Est-ce que vous allez de temps en temps à la rencontre des chefs d'État pour tenter de les convaincre ?
Non, je ne fais pas ce geste-là. Est-ce qu'il faut le faire ? Je ne sais rien. Moi, je ne sais pas. Je ne sais pas ce qu'il faut faire. Je pense que la politique, elle a besoin de la politique, mais la politique passe, si vous voulez. Où est Gengis Khan, c'est tout ça, c'est des conjonctures, et la liste des gens qui ont fait de la politique, le problème aujourd'hui, c'est est-ce que nous sommes conscients, ou le politique est conscient qu'il a une responsabilité très importante à l'égard de l'humanité et de la continuité de la vie, est-ce que c'est intégré véritablement comme un des paramètres les plus importants? Où est-ce que nous sommes dans le produit national brut? Si on reste dans le produit national brut, c'est pas la même logique.
On a la chance de vous accueillir ici en Principauté. Je crois que c'est une toute première fois, en tout cas en tant que conférencier ou intervenant public. Ce paysage est, j'ose dire, aux antipodes de votre jardin en Ardèche. Qu'est-ce que ça vous inspire ?
Si vous voulez, moi, je pense en toute situation, il faut que les, si les gens sont heureux, ils sont heureux. Moi, j'ai rien à dire. C'est simplement, soyons heureux. Mais si on est dans des situations dans lesquelles on n'est même pas heureux parce qu'on se sent vide, on se sent inutile, on sent qu'on est... Il faut vivre, mais pas seulement exister. Alors si on accepte que simplement d'exister, voilà, si les gens sont contents, moi j'ai rien à dire. J'ai pas à dire vous faites ci ou vous faites ça. Chacun, moi je sais que j'habiterai pas là, ça c'est certain. Et que je suis dans un lieu privilégié parce que nous avons une ferme dans le sud de l'Ardèche avec un paysage magnifique, 17 clochers, le silence. Donc j'ai eu le malheur de dire une fois à un journaliste qui est venu me voir, voyez moi je suis dans le silence, je suis dans la beauté, où que je regarde c'est très beau, c'est la nature, etc. Je me considère comme un milliardaire. Alors c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Il a fait sortir la revue avec ma trombine, Pierre Rabhi, le milliardaire. Alors je me suis dit, si le fils me tombe dessus, je ne sais pas trop comment je vais faire pour. Mais je veux dire, il faut savoir que les richesses qui nous sont données gratuitement, qui sont des richesses que la nature nous offre, magnifiques, beaux couchers de soleil, les oiseaux, enfin, malheureusement, on détruit beaucoup de ces choses-là. Il faut, pour moi, c'est ça la richesse, c'est d'être dans la vie. Mais je ne supporterais pas d'être incarcéré.
Vous qui aimez donc être très très proche de la nature, vous faites également beaucoup de conférences. Est-ce que ça ne contrarie pas votre emploi du temps que vous aimeriez voir dans le silence, justement ?
Non, j'alterne. C'est-à-dire que là, je vais rentrer chez moi avec Caroline et puis je vais retrouver mon silence. C'est un peu mon perchoir, quoi. Et je quitte parce que moi, je ne m'étais pas donné du tout de mission particulière. Ce sont les gens qui demandent des témoignages. Parce que effectivement, aujourd'hui, on est dans une phase où le sens de la vie devient compliqué. Et où finalement, on développe une civilisation dans laquelle l'homme est dominé par ses outils. Une civilisation fragile, sous les apparences de couper l'électricité, supprimer le carburant et la communication, c'est l'effondrement du système. Et on a calculé que si les camions, les trains, etc., n'alimentaient pas la ville de Paris pendant une semaine, c'est la pénurie, voire la famine. Donc ce qui veut dire qu'il y a une réorganisation à faire de l'espace rural et de l'espace urbain, et d'équilibrer le tout, voyez. Sinon, beaucoup de gens sont privés des biens gratuits que nous donne la nature, et c'est ça l'écologie fondamentale pour moi. Et malheureusement, on est dans une organisation où l'être humain est confiné. C'est pour ça que je parle de l'itinéraire des bois, vous savez, de la maternelle à l'université, on est enfermé, les jeunes appellent ça le bahut. Ensuite, tout le monde travaille dans des boîtes, des grandes boîtes, des petites boîtes, etc. Mais pour s'amuser, on y va en boîte, on y va dans sa caisse, et puis il y a la boîte à vieux en attendant la dernière boîte que je vous laisse deviner. Alors si ça, c'est un itinéraire de vie, moi ne me convient pas. Mais s'il convient aux gens, moi, je n'ai rien à dire, je n'ai pas à leur dire c'est bien ou c'est mal. Mais simplement, regardez, si vous êtes d'accord avec un système carcéral comme celui-là, et que vous y êtes bien, bah, continuez. Mais je n'ai pas à dire, vous êtes... Mais observons la réalité concernant le destin de l'humain aujourd'hui. Ce destin de l'humain, il y a comme une confiscation de la vie, c'est-à-dire qu'on passe un contrat à vie, on me donne un salaire et je donne ma vie. Et ça, ce contrat, je l'ai refusé. À 21 ans, j'ai refusé ce contrat. Vous ne donnez pas simplement un salaire et je donne toute mon existence. Non. Voilà. Mon existence est faite pour autre chose. Et c'est la raison pour laquelle on a quitté avec Michel, ma compagne, qu'on s'est connus à Paris, pour aller dans la nature en disant, bon ben, il faut que nous vivions, nous voyions les miracles de la vie. Alors, comme nous n'avions pas de moyens, il a fallu donc se battre, et maintenant, pendant des années, les enfants sont arrivés les uns après les autres, et notre grand souci, est-ce que les enfants ne vont pas nous reprocher notre propre choix ? Pas du tout. C'est le contraire. Donc voilà. Alors là, je suis dans le témoignage, je ne suis pas dans le donneur de leçons. Hein. Simplement, vous me demandez les choses, je vous réponds. C'est tout. Mais surtout pas donneur de leçons, je ne suis en rien là-dedans. Ce que je pense, c'est que l'humanité, profondément, la vie humaine est gaspillée. Voilà, ça je le pense profondément.
On comprend bien qu'il y a en ce moment une quête de sens, voire une quête de spiritualité. Vous-même, vous êtes converti à la religion catholique. Est-ce que dans votre démarche, il y a quelque chose qui relève de la spiritualité ?
Moi, j'ai été musulman catholique. Maintenant, je ne suis ni l'un ni l'autre. Il faut être précis là-dessus. Par contre, je n'ai pas renoncé à la dimension spirituelle.
Mais je ne parle pas de religieux, je parle de spirituel.
Alors, mais la spiritualité, c'est autre chose. C'est-à-dire que l'esprit est partout. Il n'est pas dans les églises, dans les mosquées, l'esprit est partout. Et par contre, alors je reste très fidèle en dehors de tout le reste, toutes les fioritures sont mises de côté, plus rien. C'est que le message christique disant que l'amour, c'est la plus grande chose, c'est l'amour, oui, je crois que c'est la plus grande chose. Et si nous savions vraiment aimer, mais je ne parle pas de l'amour qui tombe dans nous deux, intimité, les histoires romantiques et machin, ce n'est pas ça que je parle. Je parle de cette énergie qui nous fait aimer la nature, les autres, le monde, les étoiles, nous fait aimer tout. Ce n'est pas l'amour humain. Il y a pas mal de problèmes d'ailleurs au nom de l'amour. Ce n'est pas ça. C'est cette énergie que nous pouvons avoir, nous, d'avoir cette force d'aimer, voilà, et d'aimer la nature, d'aimer la vie, d'aimer les créatures qu'on est en train de détruire, d'aimer l'océan, d'aimer les étoiles, d'aimer. Et après, il y a bien sûr l'amour humain qui concerne deux personnes dans leur proximité, dans leur rapprochement. Et heureusement, la nature a été assez maligne pour qu'on trouve du plaisir dans l'amour, pour procréer. Parce que s'il n'y avait pas de plaisir, dans l'amour humain, il y a longtemps que l'humanité serait arrêtée.
Bien sûr. Vous n'êtes certainement pas devin, mais comment voyez-vous l'avenir ? Êtes-vous plutôt pessimiste ou optimiste ?
Moi, je suis ni l'un ni l'autre. Soit nous sortons de notre inconscience, prendre conscience de notre inconscience et de vraiment voir clairement que nous sommes en train de nous suicider par notre façon de nous... de gérer la vie elle-même, nous gérons la vie d'une façon tordue. Et nous participons à notre propre éradication. Ça, c'est vrai. Quand vous empoisonnez tout, il ne faut pas s'attendre, donc on redonne. Alors ça, c'est une question bon, d'éveil. Je ne parle pas de prise de conscience, parce que ça me rappelle l'électricité, mais d'élévation de conscience. C'est pour ça que le village de Mahaden, là où Mauritanie, on voudrait créer un prototype d'un village à écologie intégrale, y compris les enfants, éduquer à l'écologie. Les enfants, les femmes, tout le monde est mobilisé pour essayer pour travailler ensemble un prototype villageois dans lequel tous les éléments concernant l'écologie soient vécus, soient transformés en réalité.
Est-ce que vous pensez que la nature humaine engage la prise de conscience, ou je sais que vous n'aimez pas ce terme, mais en tout cas, puisse élever sa conscience, ou qu'au contraire, qu'elle va se laisser déborder par l'avidité ?
Disons que ça, c'est une question de... C'est une question, justement, d'ouverture de conscience. Qu'est-ce qui est important ? C'est la vie. Les milliardaires laissent leurs milliards, j'ai rien contre eux. S'ils veulent gagner de l'argent, ils gagnent de l'argent. C'est pas mon problème. Sauf que de toute façon, Avec la mort, on ne négocie pas. Et nous sommes, je pense, ce n'est pas un scoop, tout le monde est inscrit. Il n'y a personne, tout le monde est inscrit. Maintenant, on a ce temps de vie avant la mort. Et le problème aujourd'hui, c'est qu'on est mort en train de se demander s'il existe une vie avant la mort. Parce que ce qu'on appelle la vie, est-ce que c'est la vie ou pas? Voilà. Et après la mort, j'en sais rien. Chacun, c'est là aussi où on est divisé, parce que les uns pensent que c'est ceci, parce que c'est cela. Ça donne des religions, des préceptes contradictoires qui sont source de conflits. On le voit dans le monde, hein, les conflits partout religieux sont là. Mais c'est pas ça le problème. L'homme simplement, il reste attaché au message christique de l'amour absolu, et c'est ça. Et après, qu'est-ce qui se passe après la mort? Moi, je n'en sais rien. Beaucoup, tout le monde fantasme là-dessus. Est-ce que la conscience qui m'habite, qui habite mon corps, quelque part se prolonge, alors que mon corps retourne au principe biologique, c'est-à-dire qu'il se décompose et retourne au principe biologique? Est-ce que cette âme qui est en moi, est-ce qu'elle a une prolongation quelque part? Je n'en sais rien. Je pense que oui. J'ai eu des discussions avec des amis qui parlaient de Gaïa. Je suis en train d'écrire sur Gaïa, la Terre tout entière. Il y a deux questions. Il y a des gens qui disent que ce n'est qu'un système biologique et c'est tout. Et il y en a qui disent non, Gaïa est consciente. Ça a été là, une conscience. La Terre serait consciente. Moi, j'ai tendance à dire oui. Et quand je vois la subtilité qu'il y a, justement, dans ce qui concerne cette planète, avec sa vitalité, avec ce qu'elle a organisé pour survivre elle-même, etc., dans ce contexte, on a écrit aussi un bouquin avec Jean-Marie Pelt, et dans cette conception de la planète, moi j'ai tendance à dire qu'elle n'est pas animée seulement par des éléments biologiques mécanistes, mais que quelque chose, une intelligence, est-ce qu'on peut appeler ça Dieu, ou ce qu'on peut pas, gère tout ça. C'est tellement bien fait qu'on ne peut pas imaginer que ça ne soit pas intelligent.
Vous avez une réflexion spirituelle, je vais arrêter là et peut-être je vais passer le micro à vous dans la salle.
Je vais simplement demander après à Caroline. Parce qu'elle est beaucoup plus précise que moi concernant là où nous en sommes dans notre démarche pour ramener les choses un peu à des questions plus pratiques. Parce que évidemment il y a un pendant pratique de ces choses-là. Il y a une philosophie, mais il y a aussi, disons, parce qu'il faut incarner les valeurs. C'est vrai que les valeurs, on ne peut pas. On parle. Les bibliothèques sont pleines à craquer de telles considérations, des thèses, des antithèses, des foutaises. Enfin, il y a tout. Sauf le problème, c'est que nous sommes dans un problème urgent. Et que ce problème urgent, il faut quand même lui donner une réponse. Si nous ne donnons pas une réponse à ces problèmes urgents, ce sont les générations futures qui vont être mal en point.
Je voulais poser une question par rapport au monde que nous allons laisser aux générations futures. Vous nous dites qu'aujourd'hui, il y a suffisamment de ressources naturelles pour nourrir la planète, en totalité, évidemment, avec peut-être plus de sobriété chez nous, et un petit peu plus en Afrique, où il manque cruellement de biens. Mais que pensez-vous aussi d'une natalité sobre? Parce qu'aujourd'hui, il y a une démographie terrible, une croissance exponentielle des humains, et la planète, elle ne pourra pas apporter un nombre infini d'êtres humains. Donc, est-ce qu'il ne serait pas peut-être responsable de limiter le nombre d'enfants?
Non, parce que... Non. C'est-à-dire qu'il faut quand même rappeler l'équilibre. C'est-à-dire qu'il y a 1/5 de la population planétaire qui consomme les 4/5 des ressources de la planète. Donc il n'y a pas le partage équitable, déjà. Nous, quand on regarde nos décharges publiques, on s'aperçoit qu'il y a un gaspillage absolument monstrueux. Alors qu'en fait, nos besoins réels, c'est évidemment de se nourrir, de se vêtir, d'être abrité, d'être soigné. Ça, c'est les besoins incontournables pour chaque être humain, où qu'il soit. Alors nous, on répond à toutes ces choses-là, mais même on répond bien au-delà de ça, puisqu'il y a Alors, la natalité, ça a toujours été un alibi pour dire si à la fin d'un mois, c'est parce que nous sommes nombreux. Seulement, il faut prendre en compte le fait qu'il y a des milliards d'individus qui ne mangent même pas à leur faim. Donc, on ne peut pas accuser l'enfant qui ne mange même pas à sa faim d'être un ballon, tu viens surcharger. Ça, c'est un discours égoïste, c'est-à-dire qu'en fait, on accuse la démographie d'être la responsable. C'est très commode de dire c'est parce que nous sommes nombreux qu'il y a la fin dans le monde. Ce n'est pas vrai. C'est parce qu'on ne partage pas. C'est parce que d'un côté on gaspille, et de l'autre côté on serre la ceinture, et des êtres humains naissent bien plus pour mourir, pour agoniser et mourir, que pour vivre. Donc il y a avant tout, si on aborde, je ne suis pas pour la natalité indéfinie, mais avant toute chose, il faut examiner un peu l'organigramme des choses et dire comment est-ce qu'on répartit les ressources vitales. Donc, est-ce qu'on les répartit de façon équitable ou est-ce qu'il n'y a pas une catégorie limitée qui consomme et qui surconsomme au détriment de l'autre. Donc avant tout, c'est l'équilibre. Mais en même temps, je ne suis pas pour dire qu'il faut que l'humanité prolifère. Vous savez, une famille africaine, latino, etc., les gens, lorsqu'ils n'ont ni sécurité sociale, ni retraite des vieux, ni rien de tout ça, ils comptent absolument sur leurs enfants pour leurs vieux jours. Pour leurs vieux jours, ils n'ont rien qui peut les secourir. Alors, surtout quand on est dans une situation où le manque d'hygiène, etc., produit des mortalités importantes. Beaucoup de femmes perdent, d'ailleurs, ma propre mère, elle a perdu avant moi, des enfants meurent. Donc, quand on est vieux, eh bien, si on a, dans les pays prospères, eh bien, on a la retraite des vieux, on a des lieux où on peut aller vieillir, passer le restant de ses jours, etc., là-bas, bon. Et leurs enfants, c'est leur sécurité. Et c'est comme ils en perdent beaucoup, donc ils en font. Alors, rien que l'avènement des antibiotiques a fait que des maladies qui décimaient les enfants ont fait que ces maladies ne déciment plus les enfants. Donc les enfants survivent et effectivement ça fait une surpopulation. Mais à l'origine, comme ils perdaient beaucoup d'enfants, il fallait qu'ils en fassent et c'était leur sécurité vieillesse. Vous comprenez ? Et donc, du coup, maintenant, il y a à rétablir un certain équilibre de façon à ce que la prolifération se réduise là où aujourd'hui on peut intervenir pour remettre un nouvel équilibre.
Une dernière question.
Merci. Merci, M. Ravi, d'avoir partagé avec nous vos valeurs.
Merci.
De nous avoir apporté un peu cet éclairage, un peu de soleil, et peut-être un peu d'espoir. Il y a quelque chose qui m'interpelle dans tout ce que vous avez dit et dans votre action, qui est basée sur le long terme, c'est qu'aujourd'hui, vous développez votre projet principal en Afrique. On sait tous que l'histoire de l'humanité a commencé en Afrique. Est-ce que votre vision, c'est tout doit repartir de l'Afrique? Est-ce qu'en gros, on est foutu?
Non, pas du tout. Non, d'abord, moi-même, en tant qu'Africain, je suis très reconnaissant à la France d'avoir accueilli. Donc il y a eu aussi, évidemment, on ne peut pas entamer la thématique de l'immigration qui est aujourd'hui d'actualité. L'immigration, si l'Europe n'avait pas migré, je crois qu'elle serait très pauvre. Parce que en fait, l'Europe n'a pas de ressources. Très peu de ressources. Par contre, elle a du savoir. Elle a du savoir, elle a du savoir-faire, elle a amené des choses pour le meilleur et le pire d'ailleurs, parce que ce savoir, même ce savoir, disons scientifique, c'est quand même la science qui a permis de faire la bombe atomique. Vous voyez, donc moi je ne suis pas à genoux devant la science, tout dépend quelle conscience, selon l'adage, quelle conscience gère la science. Et la science, si elle est gérée avec sagesse, elle donne de la sagesse du bien. Si elle est gérée sans sagesse, eh ben, elle donne des missiles, des bombardiers et elle donne la bombe atomique. Donc c'est l'humain qui doit choisir à partir de ça. Donc aujourd'hui, il y a à retrouver un nouvel équilibre qui soit planétaire, pas seulement ce clivage entre les hyper-riches et les hyper-pauvres, le nord et le sud. Et le temps est venu où l'humanité doit s'homogénéiser, c'est-à-dire qu'on doit créer une seule humanité. Cette humanité avec évidemment ses caractéristiques, mais une vraie humanité solidaire. Et à ce moment-là, on abolit la destruction de l'humain par l'humain, on abolit toutes ces choses-là et on crée à partir de ce chaos une humanité qui soit une humanité intelligente et surtout bienveillante. Voilà. Donc la bienveillance, l'amour, quand on dit ça, on a l'impression qu'on dit, je crois qu'on le sait, c'est une énergie, l'amour, c'est une énergie extraordinaire. Alors sortons de nos peurs. Qu'est-ce qui produit la bombe atomique? C'est la peur. Si on n'avait pas peur, il n'y aurait pas de bombe atomique. Donc il faut éradiquer la peur pour ne pas avoir de bombe atomique. Et pour éradiquer la peur, vous voyez, l'évolution qu'il y a eu en Europe qui est quand même intéressante. Où avant, ça n'arrêtait pas de guerroyer, etc. Ben maintenant, on ne peut pas imaginer que l'Allemagne va attaquer la France. Enfin, je ne vois vraiment pas comment. Alors que ça l'était au départ. Et ben cette espèce de fraternisation et d'homogénéisation de l'organisation européenne, pour moi, c'est un grand progrès. Et si on arrivait au-delà de l'Europe à homogénéiser l'ensemble de la planète, eh bien, on dirait, mais les arbres, ça ne sert à rien. Arrêtons de fabriquer tout ça et occupons-nous de notre planète, parce que cette planète, elle appelle au secours, compte tenu que les exactions commises contre elle sont aujourd'hui à notre détriment. C'est-à-dire que nous sommes dans un processus nous-mêmes, d'éradication de nous-mêmes. Et ça, il faut en prendre conscience. Que nous mettons en place tout ce qui est contraire à la vie. On met beaucoup de choses qui sont contraires à la vie. Le poison, les pesticides, c'est contraire à la vie. Les armes, c'est contraire à la vie. Alors, il faut arrêter tout ce qui est contraire à la vie pour rentrer dans cette fraternisation de l'humanité. Théilhard de Chardin, peut-être l'ont lu, Théilhard de Chardin, ben, il parlait de noosphère, c'est-à-dire de la sphère des consciences. Et moi, en 2002, quand je me suis présenté aux élections présidentielles, c'était appel à l'insurrection des consciences. Mais ce n'était pas appel aux armements, c'était appel à l'insurrection des consciences. Quelle planète laisserons-nous à nos enfants? Quels enfants laisserons-nous à la planète? Donc il faut maintenant la mondialisation, soit nous continuons à faire de la mondialisation, une guerre économique, où le plus fort dévore le plus faible. Si on continue comme ça, ben les Chinois vont leur régler notre compte, parce que en fait, eux, ils sont capables d'amener des choses à des prix défiant toute concurrence. Ou si nous disons que la mondialisation, c'est la mondialisation positive, c'est-à-dire qu'on arrête la compétitivité, on arrête toutes ces choses-là pour fraterniser au niveau de la conscience. Et la conscience, c'est chacun a la sienne et permet de se libérer de notre histoire. Parce que dans notre histoire, moi je suis né dans un milieu, chacun de nous est né dans un milieu et dans une culture particulière. Cette culture particulière l'a caractérisée. Et c'est pour ça que la sauvegarde de chacun est dans la sauvegarde de sa culture, la sauvegarde de sa spécificité. Et ça fait des antagonismes. Si on enlève tout cela et que la conscience humaine globale se rendre compte que nous sommes tous sur une seule et même planète et que notre intérêt est de prendre soin de cette planète et tous, et bien à ce moment-là, on peut dire qu'on va rentrer dans un avènement nouveau qui est l'avènement où l'amour finalement remplace la haine et toutes les dissensions.